fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Et du bordel, eh ben on l'a avec Brian Usna et Stuart Gordon, donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Donc après la trilogie Reanimator, après le retour des morts vivants 3, il était temps de revenir en arrière et de récupérer le tandem juste après leur premier coup d'essai et coup de maître qu'est Reanimator, et on enquille de nouveau sur quoi ? Sur une adaptation de Lovecraft. Et ce film arrive un an après Reanimator et ça s'intitule From Beyond, traduction française, ou plutôt sous-titre français, aux portes de l'au-delà. Donc alors ce film, comme certains des films que j'ai chroniqués à 7ème dimension, moi je l'ai découvert dans les Jeudis de l'Angoisse. Et particularité de ce film découvert dans les Jeudis de l'Angoisse, c'est qu'avec Peterson, on s'était rendu compte que sa courte durée, 1h21, générique compris, permettait, selon les dires de Peterson, de le caser un peu n'importe où derrière une copie d'un autre film. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, on en avait parlé dans l'épisode 3, acheter des films, c'est bien. C'est-à-dire que nous, on est issus du monde de la VHS, du vidéoclub, et on a pas mal repiqué de films. Et c'est vrai que pour des soucis de rentabilité, on s'était rendu compte que c'était moins cher finalement d'acheter des cassettes de 180 minutes, donc c'est-à-dire 3 heures, et des cassettes de 240 minutes, c'est-à-dire 4 heures, parce qu'on pouvait y caler plusieurs films à l'intérieur plutôt que d'acheter que des cassettes de 120 minutes. Donc c'est vrai que ce From Beyond, il était parfait. Et pourquoi ? Parce qu'en faisant 1h20, on peut le caser derrière n'importe quel film d'1h40, 1h45. Et petite anecdote là-dessus, ce From Beyond, le pauvre, on l'avait dans des copies délavées. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, par sécurité, on se faisait une copie de la copie de la copie derrière d'autres films. Donc c'est un film qui a très rapidement perdu ses couleurs dans notre collection de VHS et qu'on avait peut-être une, deux ou trois fois quelque part, en fait, derrière un autre film parce qu'on trouvait ça cool de le caler derrière. Donc hormis cette joyeuseté de sa durée, ce From Beyond, c'est un petit peu, si on devait le comparer, autant Reanimator, si on regarde bien, autant Reanimator, et surtout dans cette version Director's Cut que nous a proposé The Ecstasy of Films, il n'y a pas que du gore, il n'y a pas que de l'érotisme, il y a aussi un peu de profondeur au niveau des personnages. Autant celui-là, on sent que les curseurs sont mis au maximum, et je vais pas vous mentir, le fait de l'avoir revu dans ce master proposé par Sidonis Kalista, voilà, master qui date de 2014, réédité chez nous, enfin, ou plutôt édité chez nous en France en haute définition entre 2016 et 2017, ce qui saute aux yeux quand on regarde le film, et ça va aussi avec, avec sa photographie, hein, qui est très dans les roses violets, c'est qu'on on se croirait devant un Sentai en prise de vue réelle. C'est un petit peu ce qui se passe avec ce From Beyond, et quelque part, le tandem ne conserve que le côté outrancier qu'on avait pu constater dans Reanimator, c'est-à-dire jeune femme en petite culotte et monstre gluant qui la poursuit. Donc quelque part, c'est un petit peu les bases du Sentai, mais vous verrez, j'y reviendrai dans cette chronique sur certains éléments, notamment sur certaines scènes à effets spéciaux, qui sont quand même orientées dans une bonne direction. Donc alors, c'est un film qui dure, comme je viens de le dire, 80 minutes. Alors, j'ai pu relever qu'il existait une version qui comporte une à deux minutes supplémentaires, donc une director's cut. Ces deux minutes avaient été coupées par Stuart Gordon pour éviter un classement X, et pas mal de gens qui ont chroniqué cette édition de Sidonis Kalista ont été un peu déçus, parce qu'ils s'attendaient à avoir le master director's cut, et c'est pas le cas. Bon, moi ça change rien à la limonade, parce que quelque part, c'est exactement le film que j'avais vu à l'époque. Donc bon, c'est vrai que j'aurais été preneur de ces 1 à 2 minutes, mais c'est déjà un tour de force d'avoir un film comme From Beyond en haute définition de par chez nous. Bon, alors, on remet comme d'habitude l'église au milieu du village, ou l'hôtel de ville, si vous voulez, au milieu du village, hein, parce que les deux sont valables. On récupère le tandem de un an après, du coup, Reanimator. On est en 86, et c'est la même équipe, c'est-à-dire Stuart Gordon à la réal, Brian Usna à la prod, et au scénar, on retrouve un troisième larron, qui est Denis Paoli. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que j'en avais pas parlé sur la saga Reanimator, Denis Paoli, ça sera le scénariste attitré du tandem Gordon-Usna, parce qu'on va, le récupérer, ben, notamment sur le Reanimator, le Puits et le Pendule de Gordon, et aussi, parce que j'avais pas parlé de cette particularité-là, c'est que vous pourriez vous dire, pour les nouveaux et les nouvelles qui débarquent ici même, et qui découvrent en fait tout ce cinéma des années 80, que ben, finalement, Gordon, Stuart Gordon et Brian Usna n'auront pas eu de fait de gloire hors cinéma horrifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire hors Reanimator et hors la série B produite par Empire Pictures. Et ben non, en fait, ils ont connu un peu de gloire, mais au niveau de l'écriture de scénario. C'est pour ça que je raccroche les wagons avec Denis Paoli, parce que les trois larrons sont à l'origine aussi d'une nouvelle version, d'un remake, voilà, de l'écriture d'un remake, du Invasion of the Body Snatchers. Voilà. Donc, qui s'intitulera Body Snatchers, et qui ne sera pas réalisé, bien entendu, ni par Gordon ni par Usna, mais par Abel Ferrara. Donc, ça deviendra un produit de studio. Donc, ça, c'est plutôt quand même à noter. Et autre tour de force, où là, on ne les attend pas, parce que pendant un moment, je me suis demandé si c'était pas des homonymes, mais ce sont bien les deux, c'est-à-dire Gordon, Usna, et notamment aussi Denis Paoli, qui sont à l'origine d'une trilogie. Enfin, ça deviendra une trilogie, mais à la base, c'est un seul film, qui est Chérie, j'ai rétréci les gosses pour Disney. Donc ils sont derrière Chérie, j'ai rétréci les gosses, Chérie, j'ai agrandi le baby, et Chérie, j'ai agrandi le bébé, pas le baby, et Chérie, nous avons été rétrécis. On retrouvera également Denis Paoli sur Le Dentiste de Usna, et aussi sur Le Dagon de Stuart Gordon, et même la réunion aussi de Jeffrey Combs et Barbara Crampton à l'écran au milieu des années 90 pour Castle Freak. Donc voilà pour le tandem de scénaristes, qui est, voilà, c'est un peu la famille, un peu quelque part. Donc si Vin Diesel était là, il nous décapsulerait une Corona, tout en observant Barbara Crampton à moitié nue. Ce pitch est fou quand même, de ce que je viens de dire. Vin Diesel, Barbara Crampton à moitié nue, lui buvant une Corona, je dépose les droits à l'instant T. Donc, quel est le point de départ de From Beyond? Eh ben, comme d'habitude, nos copains comme cochons, hein, les Paoli, Gordon, Usna, ont le même centre d'intérêt, les mêmes passions, les mêmes influences, c'est-à-dire Lovecraft, et ils prennent une très courte nouvelle, hein, parce que là, on est, alors, Lovecraft est connu pour faire de la nouvelle, ou de la nouvelle épisodique, mais de court roman. Mais là, on est sur une courte nouvelle qui porte le même nom, qui s'appelle From Beyond, et qui était sortie en 1920. Voilà. Et c'est vrai que il a été rapporté, on peut le lire aussi sur Internet, que de l'aveu même de Gordon et surtout Yuzna, cette courte nouvelle laissait la porte ouverte, en même temps ça s'appelle aux portes de l'au-delà, hein, quelque part, laissait les portes ouvertes pour un développement autre. Donc au final, quand vous regardez le film, la nouvelle, c'est ce qu'on pourrait appeler le préambule du film. C'est-à-dire tout ce qui se passe, la première séquence, en fait. Et une fois le titre du film arrivé, le générique déroulé, et ben tout le reste, en fait, c'est ce qu'ont rajouté Gordon et Yuzna. Donc ils ont étendu l'histoire et sans contrainte, en fait. Donc, ça, c'est pour le point de départ. À noter que là où Reanimator a été un tour de force pour un peu moins $1 million, là, notre ami Charles Band leur donne quasiment 5 fois le budget de Reanimator. On n'est pas loin de $5 million. Et leur prête même ses studios à Rome. Donc, parce que c'est un film qui est quasiment à huis clos. Il y a de mémoire, il me semble qu'il n'y a que 2 décors. Il y a la maison principale du docteur Pretorius, une espèce de manoir, et il y a quelques scènes dans un hôpital qui fait aussi hôpital psychiatrique, hein, tant qu'à faire. autant mettre les deux au même endroit, donc il y a 2 décors et 2 morceaux de rue. Donc en fait, tout ce budget-là va passer dans les effets spéciaux visuels, donc je parlerai du côté du côté FX un peu plus tard, mais en gros, on va dire qu'ils ont les coudées franches pour pouvoir mettre en image tous les délires qu'ils ont pu poser à l'écrit sur le scénario. Alors, c'est un film quelque part familial, parce que on reprend en fait le tandem d'origine de Reanimator. Donc c'est-à-dire que dans le rôle du... Oui, on peut dire c'est le héros quelque part, on va dire le focus pour le spectateur, dans le rôle de Crawford, donc Crawford qui est un physicien, on retrouve Jeffrey Combs. Donc Jeffrey Combs, je l'avais déjà présenté pour la saga Reanimator, donc c'est on reprend les mêmes et on recommence, voilà. Dans le rôle du docteur Catherine, donc une psychologue plutôt portée sur le BDSM, on retrouve Barbara Crampton, hein, elle avait plutôt marqué les esprits dans la saga Reanimator, autant ne pas s'en séparer. Et bien entendu, la structure étant similaire à celle de Reanimator, dans comment on pourrait présenter ça, comme le successeur du docteur Hill dans la saga Reanimator, donc avoir on va dire le scientifique, la sommité scientifique, qui aurait des tendances un peu libidineuses, donc et qui n'est pas le docteur Hill, mais qui cette fois a un nom top, qui s'appelle le docteur Pretorius, on retrouve l'acteur Ted Sorrell, qu'on avait déjà vu, ou qu'on verra, alors j'ai plus la temporalité, mais plutôt qu'on verra, dans le Basket Case 2 de Frank Henenlotter, et aussi dans une palanquée d'épisodes de Law and Order, voilà. Donc cette fameuse, on va dire, entité de série, intitulée les New York Police quelque chose, judiciaire, unité spéciale, ainsi de suite. Donc voilà, acteur de série, et qu'on retrouve chez Henenlotter, et on a droit à un nouveau venu, pour profiter un petit peu du budget alloué par Charles Band, et c'est un nouveau venu plutôt grand et tout droit sorti du zombie de George Romero. Je parle bien entendu de Ken Foree, qu'on reverra par la suite dans le Massacre à la tronçonneuse 3, dans la série de films originels, qu'on reverra également, parce que bien du coup, il s'est plutôt éclaté chez Tonton Gordon et Tonton Yuzna, donc on le reverra dans le Dentiste. On le verra aussi chez Rob Zombie, parce que Rob Zombie connaît ses classiques, donc quand il fait The Devil's Rejects, et ben il fait appel un peu à tout le monde, dont Ken Foree, et comme il s'est plutôt éclaté chez Rob Zombie, on le verra aussi dans son film sur les sorcières de Salem, mais à grand renfort de LSD, qui s'appelle The Lord of Salem. Voilà, donc c'est vraiment un film très très spécial, celui-là. Voilà. Voilà pour le casting. À noter aussi que dans ce casting-là, on y retrouve, parce qu'on la voyait aussi dans Dolls, enfin, on la verra plutôt dans Dolls, et on la voyait déjà dans Reanimator, il y a la propre femme de Stuart Gordon, qui joue le rôle d'une psychiatre qui a très envie, dans From Beyond, de lobotomiser cette chère Barbara Crampton. Est-ce que c'est parce qu'elle est plus belle qu'elle ? On n'en sait rien. Il y a peut-être un pointe de jalousie féminine. Mais bon, voilà, ça c'était vraiment pour la petite anecdote dans le film. Elle est régulièrement dans les films de Stuart Gordon, ou du moins dans la première partie de sa carrière. La musique, cette fois-ci, n'est pas pompée sur Psychose, mais elle est toujours signée Richard Band, frère de Charles Band. Et comme je l'ai dit, c'est un tournage qui s'effectue en Italie. Parce que Charles Band a pu y racheter d'anciens studios très connus, voilà. Donc parce que au final, Empire Pictures, ça marche plutôt bien. Hein. Donc ça, et c'est aussi après From Beyond, je le rappelle, que le duo, enfin plutôt Brian Yuzna va se désolidariser de Charles Band, parce que quelque part, le monsieur a une tendance à garder un peu l'argent dans ses poches, voilà. Donc je vous prête aussi une petite expression du Sud, est-ce qu'on peut dire que Charles Band a des oursins dans les poches? Il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Voilà, donc toute cette chronique va se baser bien entendu sur cette édition de faite par Sidonis Kalista, et j'y reviendrai en fin d'épisode pour donner mon avis hein, sur cet écran, voilà, cet écran physique. Pour From Beyond, bon, alors From Beyond, ça raconte quoi? Voilà. Alors From Beyond, ça raconte, alors comme d'habitude chez Lovecraft, toute expérience convoque forcément l'indicible, et c'est toujours quelque chose d'indescriptible, et donc là on va se charger, enfin du côté de Gordon et Yuzna, de rendre l'indescriptible descriptible. Donc ça raconte l'histoire du physicien Crawford qui travaille pour le docteur Pretorius, et il travaille tellement bien qu'il travaille chez le docteur Pretorius, voilà, comme un espèce de, vous savez, on a cette expression en fait dans certains milieux d'établir une chaire en fait, voilà, qui est un bureau d'études quelque part. Donc on fait ça chez le docteur Pretorius, voilà, et qui est aussi d'ailleurs, si on le voit sur le panneau devant son manoir, qui est la fondation Pretorius, hein, on rigole pas. Donc tous deux travaillent en fait à la mise au point d'un résonateur qui prend l'apparence, hein, quelque part, d'un gros aimant relié à une boule électrique qu'on peut trouver dans à la Fourfouille ou dans tout autre magasin assimilé. Donc là, chez Stuart Gordon et Brian Yuzna, ça devient un engin de haute technicité qui résonne à une telle fréquence que ce résonnement va stimuler une partie du cerveau humain, qui est la glande pinéale, et selon les dires en fait des protagonistes à l'écran, et basé sur les écrits de Lovecraft, et en même temps basé sur certaines recherches de Stuart Gordon, hein, parce qu'apparemment Gordon s'était vachement renseigné pour que tout ce qui apparaisse à l'écran, ou du moins toutes les théories abordées à l'écran, aient une base solide scientifique. Donc la stimulation de la glande pinéale amènerait l'être humain à développer un sixième sens et à avoir des univers parallèles, et univers parallèle en l'occurrence, qui serait l'au-delà. Voilà. Voilà le point de départ. Donc, cette glande pinéale, on la verra sous forme, déjà, de manière interne, sous forme de scanner au travers du film, et très rapidement, elle sortira du crâne et ressemblera à un petit pénis. Voilà, pour le point de départ, ce qui donne aussi, parce que ça, j'en avais pas parlé, moi j'ai découvert le film sur M6, et l'affiche est relativement, enfin en tout cas le poster du film est relativement resté le même à travers les exploitations, et c'est vrai que moi à l'époque j'avais, donc on achetait des télécassettes, et j'avais vu la jaquette sur télécassette avant de voir le film, et c'est vrai que l'affiche hyper vénère avec ce mec chauve, en l'occurrence Jeffrey Combs, et cette espèce de serpent qui lui sort du front, voilà, qui est la glande pinéale, hein, m'avait plutôt impressionné, ado. Donc effectivement, ça donnait envie de voir le film. Donc, la scène d'introduction de ce fabuleux film, qui n'aura pas d'Oscar, bien entendu, hein, qui ne révolutionnera rien dans le cinéma, voit le docteur Crawford, voilà, donc en tout cas ce physicien incarné par Jeffrey Combs, donc activer le résonateur, et du coup, quand on active le résonateur, alors c'est plutôt bien vu en termes de photos, donc on a un côté très violacé dans la photo qui peut amener le côté dérangeant, donc c'est plutôt bien vu parce que à l'époque c'est assez rare, côté violacé qui sera repris d'ailleurs par en termes de photo par Yuzna dans son premier film lors des débordements orgiesques de son Society, et quelque chose qui gardera au fur et à mesure de sa filmographie, donc c'est-à-dire que dès qu'il y aura du gore, du gélatineux, on aura ce côté violacé. Allez comprendre pourquoi. En même temps, je pense qu'il y a des raisons techniques, parce que souvent, le côté gélatineux de ces effets visuels, prosthétiques, c'est souvent à base de sirop, de glucose, etc. Donc peut-être qu'il y a une manière aussi de maquiller en accentuant cette couleur d'origine, ces effets spéciaux-là. Je pense qu'il y a il y a cette raison-là. Mais bon, globalement, voilà, il active le résonateur, apparaissent, parce que c'est aussi pas mal d'incrustations, d'effets visuels qui sont bien entendu tournés sur fond vert ou sur fond bleu, et qui sont pas dégueulasses et qui amènent une certaine forme de poésie. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure des effets spéciaux visuels, voir ce genre d'incruste, ça peut prêter à sourire, mais ça lui donne du charme. Moi j'aime bien, et ça amène quelque part, même si c'est pas sur le plateau, une certaine forme de physicalité. Donc globalement, Crawford, il active le résonateur, apparaissent des espèces d'anguilles qui sont pas très éloignées du travail de maquillage qu'on peut trouver dans le Piranha de Joe Dante, et on y apprend, bien avant Jurassic Park, parce que ça c'était important, parce que si vous croyez que le fait de ne pas bouger devant un T-Rex, c'est une invention de Jurassic Park, c'est ben non, ça vient de From Beyond. Donc c'est-à-dire que très rapidement, Crawford nous avertira au fur et à mesure du film que si on ne bouge pas, il ne nous voit pas. Voilà, voilà, il faut connaître ces classiques quelque part. Donc, malheureusement, il bouge, donc une des anguilles vient à lui croquer le visage, et il est à la fois effrayé et fasciné par sa découverte de cette nouvelle forme de vie existant dans un monde parallèle, qu'il en avertit le docteur Pretorius. Docteur Pretorius, qui est pas loin d'un Hugh Hefner du pauvre, donc qui se pointe avec son peignoir et ses propres initiales sur le peignoir. Donc peignoir roux aux coutures rouges et au complet noir qui annonce déjà un petit peu son penchant pour le BDSM et le côté libidineux et son amour des petites culottes. Donc ce trimballe en calbute avec son peignoir et il trouve ça magnifique tout en transpirant, on se croirait presque dans un film de Clive Barker. Et ça, on y reviendra aussi sur ce côté annonciateur des Hellraiser, et se fait happer, et notamment bouffer la tête par ces anguilles-là. Et le résonateur est coupé, non par la volonté, bien entendu, de Crawford d'arrêter le massacre, mais surtout à cause d'une voisine un peu chiante, qu'on reverra par deux fois dans le film, qui alerte la police. Donc, la police se retrouve avec le corps d'un Pretorius sans tête, et d'un Crawford qui raconte tout et n'importe quoi, mais surtout le fait que des créatures étranges existent dans un monde parallèle, ce qui le conduit bien entendu directement à l'hôpital psychiatrique. Hôpital psychiatrique bien entendu fréquenté par notre chère Barbara Crampton, et qui voilà un sujet d'étude fort intéressant. Voilà. Donc, contre toute attente, voilà, parce que c'est ça qui est intéressant dans ce genre de film, Barbara Crampton réussit à convaincre l'inspecteur de police d'autoriser Crawford à sortir, ceci accompagné d'un inspecteur incarné par Ken Foree, pour pouvoir retourner dans la maison de Pretorius et réitérer l'expérience pour vérifier si oui ou non Crawford est fou. Voilà le point de départ qui au final en vaut un autre. Je pense que j'ai plutôt bien pitché ce film. En même temps, c'est un film d'1h20 tiré d'une nouvelle ultra courte, donc je sais pas si tout cela relève d'un grand tour de force de ma part. Mais quoi qu'il en soit, voilà le point de départ. Alors, bien entendu, ce qui sera intéressant, parce que je reviendrai sur certaines scènes clés du film, ce qui va être intéressant dans From Beyond, bon, déjà, c'est cette volonté de Gordon et Yuzna d'activer le côté gore, libidineux et érotique, voire paillard, qu'on avait dans Reanimator, mais de le pousser au maximum. Voilà. Donc il y a déjà ce côté-là, en fait, et qui en fait finalement un film qui fera peut-être école à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le côté gore érotique, le mélange des deux n'existe que très peu au cinéma. Et vu le type d'éclairage utilisé, je peux comprendre, et on peut y voir aussi, une sorte d'influence pour une certaine forme de cinéma porno qui n'existe plus en fait aujourd'hui, qui était celui des années 80-90, où on parodiait en fait des films connus comme les Terminator ou des choses comme ça, où on mélangeait en fait un peu de SF et un peu d'horreur fait de briques et de broc, et du sexe. Voilà, donc on peut imaginer, parce que si on remet les... Si on remet les choses un petit peu en place, vu la date du film, on peut se dire que ça en a influencé plus d'un, notamment un producteur qui, lui, se spécialisera dans le côté un petit peu érotique, horreur, qui est De Coteau, en fait. Voilà. Et qui produira des sagas érotico-horrifiques pendant la fin des années 80, le début des années 90. Donc, effectivement, il y a un point de départ à ce niveau-là. L'autre côté intéressant, c'est que le budget alloué leur permet de mettre en image pas mal de délires et qui sont à la fois la résultante du travail de Rob Bottin, parce qu'on va pas se mentir, hein, parce qu'on voit l'influence directe. Il y a certains plans qu'on a déjà vus en mieux dans The Thing, mais il y a cette volonté en fait d'expérimenter à partir des délires de Rob Bottin, donc il y a une grosse influence en fait liée au travail de Rob Bottin sur The Thing, et en même temps c'est annonciateur de ce que fera Yuzna par la suite, notamment avec Society et le reste de sa filmo, en s'associant au maquilleur Screaming Matt George. Alors, qui est-ce qu'on retrouve dans ce délire d'effets spéciaux? On a quand même deux maquilleurs connus de l'époque, plus deux qui le deviendront par la suite. Donc en fait, on a quatre personnes. Donc la première, c'est John Carl Butler, dont j'avais déjà parlé dans la saga Reanimator, hein, qui est derrière beaucoup d'effets prosthétiques des années 80. Donc j'avais cité du troll, j'avais cité beaucoup de choses, donc je reparle de troll, hein, parce qu'un de mes auditeurs, ça l'a fait beaucoup sourire, et ça l'a fait voyager, donc je te fais un petit coucou au passage. Et on va, à John Carl Butler, va s'associer Mark Sjostrom, qui est aussi une figure du milieu des années 80, parce qu'on lui doit les effets spéciaux visuels du premier, plus de quelques Freddy derrière, donc notamment du Nightmare on Elm Street de Wes Craven. On le retrouvera aussi sur des sphères volantes pour les besoins des fantasmes de Don Coscarelli, du moins les deux premiers dans la temporalité qui nous intéresse. Et d'ailleurs, voilà, je vous l'annonce dès à présent, la prochaine saga, donc dans, si vous comptabilisez dans, on a combien de vérifs, deux, dans deux épisodes, la prochaine saga à laquelle je m'attaque, c'est la saga Fantasme. Voilà, ça sera le prochain épisode long de 7ème dimension, et on retrouvera Mark Sjostrom aussi pour les besoins d'Evil Dead 2, qui sera un banger de l'époque, hein. Alors banger, c'est-à-dire quelque chose qui casse un peu le game, donc Evil Dead 2 en 1987, en termes d'effets spéciaux prosthétiques et de gore à l'écran, ça redéfinit un petit peu les règles du jeu, pour en tout cas pour cette année 87, et qui sera annonciateur, bien entendu, du travail de Peter Jackson en Nouvelle-Zélande. En sous-main, on a l'émergence, parce que là ils sont assistants, on a l'émergence de futurs maquilleurs, donc notamment Gabe Bartalos, voilà, et Gabe Bartalos, alors... sachez que je l'ai rencontré, donc notamment à la Cinémathèque de Toulouse. Il était venu accompagné du réalisateur Frank Henenlotter, voilà, et c'est le maquilleur attitré, voilà, des films de Frank Henenlotter, notamment les Basket Case, Frankenhooker, que je vais chroniquer très prochainement, et Darkman aussi de Sam Raimi, et en même temps on le retrouve sur le Dolls de Stuart Gordon. Donc Gabe Bartalos aussi, qui nous a quittés, voilà, donc voilà, paix à son âme également. Donc je reviendrai sur le travail de Gabe Bartalos dans mon épisode sur Frankenhooker, et vu la direction que prend le podcast en ce moment, c'est-à-dire à mélanger sexe et gore, je me demande si je vais pas enchaîner aussi avec le Bad Biology de Frank Henenlotter aussi, voilà, qui est quand même un délire assez costaud dans le genre, on va voir, selon l'humeur. Et quatrième larron qu'on va retrouver en sous-main en tant qu'assistant, c'est le cas de KNB, c'est-à-dire Robert Kurtzman. Donc voilà, donc quatre personnes en pleine possession de leurs moyens pour mettre en scène les délires érotico-gore de ce From Beyond. Alors, donc quel est le fonctionnement de la narration adoptée par Gordon et Yuzna? C'est-à-dire que pour des raisons X ou Y, les protagonistes n'auront de cesse d'activer le résonateur, et à chaque activation, quelque part, c'est une surprise de plus en termes d'effets spéciaux visuels et de monstruosité à l'écran. Donc, il y a quand même des moments qui n'appartiennent qu'au cinéma de Gordon. Voilà, je vous donne un exemple, c'est-à-dire que les protagonistes, beaucoup d'humour. Alors après, ça en fait pas un nanar, hein, c'est pas un humour involontaire, hein, c'est vraiment en sous-main. C'est vraiment voulu, mais beaucoup d'humour passe par le personnage de Ken Foree. Alors déjà, il est bien plus grand que tout le monde. Et il passe son temps à faire des trucs qui font rire. Donc déjà, il arrive dans la baraque. Donc on a un Crawford qui joue un petit peu les dépressifs, une Barbara Crampton qui est à côté de lui en lui disant qu'il est sur la bonne voie pour se rappeler les choses, alors que bon, c'est très bien qu'il se rappelle les choses, bien entendu, et un Ken Foree qui très rapidement explique qu'il a faim et va vous cuisiner un truc comme ça en sous-main, mais genre en mode petit cordon bleu. Donc on a des plans où il est en train de touiller sa casserole et puis il sert des assiettes comme ça et ce qui me fait rire, c'est qu'on imagine tout le off, c'est-à-dire que on n'a pas vu les protagonistes faire les courses, ouais, quelque part. Donc ça veut dire que le mec est rentré dans la baraque, il a un peu fouillé dans les placards du docteur Pretorius et s'est mijoté un petit truc. Voilà, je trouve l'anecdote assez amusante, d'autant plus qu'il est le premier à mettre la main, parce que c'est un coquin, hein, le Ken Foree, c'est le premier à aller faire un tour dans la chambre du docteur Pretorius, qui, je vous le donne en mille, est une chambre près 51 degrés. Donc c'est-à-dire qu'on y trouve le béaba du petit fan de BDSM, magnétoscope et écran à l'appui, et très rapidement, Ken Foree se rince un peu les yeux sur les derniers méfaits du docteur Pretorius, où on le voit fouetter une de ses invitées, parce qu'apparemment Crawford explique tout en étant un petit peu malaisant, voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire, tout en étant un petit peu autre, si vous voyez ce que je veux dire, il explique qu'il en faisait venir souvent, voilà, et qu'à chaque fois il les entendait crier de sa chambre. Donc ça fait un peu petit garçon, il fait un petit peu petit garçon, le Crawford qu'il raconte ça. Donc ce qui fait toujours rire dans cette histoire, parce que le docteur Pretorius est censé être une sommité, et de ce qu'on comprend, il passait le plus clair de son temps à inviter des étudiantes, parce qu'on le comprend comme ça, et à les faire boire, et après à les faire monter dans sa suite pour pouvoir les fouetter et les attacher, et puis tout ce qui s'ensuit dans les joyeusetés de cette référence au Marquis de Sade. Voilà. Bon, de toute manière, ce côté BDSM, Marquis de Sade, lié à la science, est quand même une thématique qui reviendra souvent dans le cinéma de Gordon, notamment au niveau des protagonistes masculins. Le docteur Pretorius, dans ce film-là, c'est juste un docteur Hill au carré, ou même au cube, j'ai presque envie de vous dire, hein. C'est un puissance 3 là-dedans. Et c'est vrai que ça fait aussi référence à un pan de la littérature qui est cette littérature-là, quand ça parle de scientifiques, on y parle aussi de leur attrait à l'érotisme, etc. Et on n'est pas loin d'extrapoler ce que le docteur Frankenstein, notamment son rapport aux femmes et à sa libido. Donc on n'est pas loin d'extrapoler tout ça. Donc le réalisateur, les scénaristes connaissent leur classique, et en même temps, ils savent très bien qu'ils s'adressent aussi au marché de la vidéo Et ce qui fonctionne dans le marché de la vidéo des années 80, c'est le cul et le gore. Et ça, on en avait déjà parlé ici même. Et du coup, c'est ce qu'ils nous offriront assez rapidement. Donc, ce résonateur, quand il est réactivé, permet de se rendre compte que le docteur Pretorius n'est pas mort. Et le docteur Pretorius, en bon précurseur de notre ami Pinhead D.L. Riser, nous vante les mérites de ses fameux plaisirs. Alors voilà, c'est là où je vais me faire une petite parenthèse sur Hellraiser. C'est-à-dire que on est en 86, Hellraiser s'est tourné en 87, ça débarque en 88. Les Livres de sang, qui sont la nouvelle de Clive Barker, étaient déjà sortis avant, au début des années 80. Donc ça veut dire que globalement, Gordon et Yuzna, c'est sûr, ont lu l'œuvre de Clive Barker, parce que le docteur Pretorius, on pourrait prendre le résonateur et le remplacer par le Rubik's Cube, et quand on active le résonateur, comme dans Hellraiser, quand on active le Rubik's Cube, c'est Pinhead. Et Pinhead nous vante quoi? Il nous vante les plaisirs interdits. Alors moi, ça m'a toujours fait sourire, parce que à chaque fois qu'on regardait un Hellraiser avec Peterson, il y avait toujours cette phrase où il était là, les plaisirs. Moi, j'ai jamais trouvé que ce que Pinhead proposait était du registre du plaisir. Se faire attraper par des hameçons et se faire éclater, parce que c'est ça, éclater en mille morceaux, c'est pas ma définition du plaisir. Quelque part. Mais bon, ça, c'est le lien avec le BDSM. Et effectivement, le docteur Pretorius nous vante aussi des plaisirs. Et quand on voit la gueule qu'il a, donc c'est-à-dire que le Pretorius, bon, ben, on a Pretor, on est, en termes de phonétique, pas très loin de protéiforme, quelque part. Et le docteur Pretorius, bon, ben, c'est devenu un paquet de slime, hein, le machin. Et à chaque fois qu'il apparaît, il mute. Et il est très content que quand Crawford le touche, et ben ça soit visqueux et que ça se transforme en autre chose. Voilà. Donc, et il est très soucieux pour un scientifique, non pas de te parler quelque part du monde de l'au-delà, mais dès qu'il voit Barbara Crampton, il est très avide de lui faire partager ses nouveaux plaisirs. Et il lui dit, et ça c'est verbalisé dans le film, qu'il a très hâte en fait de la posséder intérieurement, de la pénétrer de par ses nouveaux atouts. Donc, et c'est pour ça qu'on est à deux doigts du Sentai dans le film, parce qu'on a beaucoup de plans où sa main s'allonge, où on a de la tentacule, et on s'inspire. En gros, je pense que le tandem a vu les effets spéciaux de The Thing, avec cette chose en fait qui s'étend et qui va avoir une bouche qui va sortir. Et sauf que dans The Thing, c'est pour bouffer les gens et les assimiler. Dans From Beyond, c'est pour pouvoir caresser les seins de Barbara Crampton. On n'est pas du tout sur la même optique. Donc, en termes de découverte scientifique, c'est un peu le niveau zéro, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on a une sommité, un physicien, et tout tourne autour du cul de Barbara Crampton. Voilà à peu près le niveau de From Beyond. Voilà. Donc, on a quand même des scènes folles. Bon, le point d'orgue, allez savoir pourquoi. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils activent le résonateur, la glande pinéale de nos personnages va être stimulée. Bien entendu, on comprend qu'il y a une sorte de passif à ce niveau-là, c'est-à-dire plus on est exposé, et plus cette glande aura tendance à devenir un vrai appendice, et à percer le haut du crâne, et à sortir comme un petit pénis. Donc le premier à avoir ce phénomène, c'est le personnage de Crawford. Voilà. Donc lui, il va avoir ce truc-là, et qui va lui permettre de voir dans le mode infrarouge d'une caméra 8mm de l'époque. Et il trouve ça top. On a des phrases comme ça, où il y a le docteur Pretorius qui lui dit « Que voyez-vous, Crawford ?» Et lui qui est en mode « C'est magnifique, c'est magnifique !» Et tout ce qu'il voit, c'est une vision toute pourrie, en mode filtre de caméra 8mm. Mais c'est pas grave, à ce point-là, on participe, voilà, ça devient du grand n'importe quoi. Et globalement, donc lui, quand on lui stimule la glande pinéale, bon, il a cette vision. Barbara Crampton, elle a autre chose. Donc, c'est-à-dire que quand la glande pinéale est stimulée, eh ben, elle, finalement, c'est un appel au BDSM. Voilà. Alors, après, il y a aussi, on va dire, une petite critique ou opinion sur le monde de la psychologie, parce que forcément, quelque part, Gordon et Yuzna connaissent leur classique. Si on part sur le point de départ de la psychanalyse, qui est au final très freudienne, on a toujours ce rapport au sexe. Et bon, ben voilà, eux, ils y vont cash. Donc, c'est-à-dire que Barbara Crampton, sa glande pinéale est stimulée. Forcément, elle est stimulée par aussi la chambre du docteur Pretorius. Et dans une scène qui n'a rien à voir, elle s'habille en cuir, tout de string vêtu, ne cachant que très peu son anatomie, et n'hésitera pas à sauter sur un Crawford affaibli, parce que dans la scène précédente, il s'était quand même fait littéralement bouffer la tête par un ver géant, quasiment, voilà, par un ver géant alors je sais plus si c'est le ver géant qui était apparu dans la cave, oui je crois que c'est ça, oui par le ver géant qui était apparu dans la cave en voulant couper l'électricité du générateur, du résonateur, si vous suivez toujours. Et donc du coup il a plus de cheveux, il a ce pénis qui lui sort du front, le mec est au plus mal, donc il est à moitié mort, et elle s'habille en cuir, lui saute dessus et commence à le masturber. Tout est normal. Voilà, tout est normal dans ce film produit par Charles Band, avec là, limite premier degré. Voilà. Donc on a des scènes folles comme celle-là. Que retenir d'autre ? Parce que bon, comme je vous l'ai dit, c'est quand même assez court. On aura des passages aussi où on ne sait pas trop pourquoi, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Notre ami Crawford ayant survécu au non-consentement, parce que c'est d'époque ça, voilà, parce que bon, quelque part, il se fait quasiment violer par Barbara Crampton, hein. Donc il atterrit de nouveau à l'hôpital psychiatrique, et dans cet hôpital psychiatrique, le fait qu'il ait maintenant ce petit pénis sur le front, eh ben, il a très envie de manger des cerveaux humains. Voilà. Donc, c'est là où tu te dis que ça part un peu en couille. Voilà, on est à deux doigts du film de zombies, mais pourquoi pas. Donc, rien ne sera jamais expliqué sur cette envie de dévorer le cerveau. Voilà, c'est comme ça, c'est gratos. Voilà. Et quand il dévore les cerveaux, il s'en prendra aussi à une brancardière plutôt, c'est le SAMU local, de passage, en essayant de lui gober le cerveau par l'œil. Voilà. Donc, c'est gratos, c'est là, on en profite, mais on connaît pas trop la raison. À noter que en termes d'effets spéciaux, c'est quand même du haut niveau, hein, je vais pas vous mentir, hein, je parle pas en termes d'incrustation, mais plutôt en termes de prosthétique. On aura droit à une, dans le final, à une répétition pour le Society de Brian Yuzna, c'est-à-dire que notre ami Jeffrey Combs se fera ingérer par le docteur Pretorius, et on aura droit à un combat dans un magma chair sous les yeux d'une Barbara Crampton toujours en petite tenue, et tout ça, voilà, on a une espèce de combat, voilà, où l'un sort de l'autre, etc. C'est plutôt bien fait. Honnêtement, on va pas se mentir, c'est quand même de haute volée en termes d'effets prosthétiques, et quelque part, voilà, on y trouve toujours des références. Ça ressemble un peu au combat final dans la bouillie visuelle en images de synthèse du Hulk de Ang Lee, où Nick Nolte se battait en images de synthèse avec Eric Bana. Il y avait un combat de Hulk, on comprenait pas grand chose, mais il y avait une espèce de magma de choses, donc j'ai envie de vous dire, peut-être que From Beyond a influencé plus d'un réalisateur et que personne ne lui a rendu ses lettres de noblesse. Donc peut-être qu'à 7ème dimension, il est temps de le faire. Donc vous l'aurez compris, From Beyond, c'est un petit grand film quelque part, donc petit par sa durée, petit par son ambition, et grand par le résultat à l'écran. Voilà. Parce que en 1h20, on s'emmerde pas une seule seconde, ça va très très loin. Donc, vous savez, dans les questionnements qu'on pourrait avoir en tant qu'amateur de films gore, on pourrait se dire, putain, ça serait cool que la nana, à force d'être à proximité du résonateur, elle se mette à on sait pas pourquoi, à s'habiller en BDSM, et ben voilà, là ça arrive. Donc à chaque fois qu'on a une idée un peu folle, nous-mêmes, ben, ça arrive à l'écran. Donc ça veut dire que dans ce délire qui n'appartient qu'aux années 80, parce que bon, ce film-là, aujourd'hui, comme certains que je chronique en ce moment, ne sortirait pas déjà d'une en salle, et aurait un haut level d'interdiction, et on aurait différentes ligues qui manifesteraient pour que le film soit interdit. N'oubliez pas, il me semble de mémoire que c'est le numéro, si je dis pas de bêtises, ça va être le numéro 6 des Sceaux, qui avait été interdit quand même, hein, qui avait été classé X dans notre pays, alors que bon, c'est quand même pas ouf, hein, la série des Sceaux, notamment les dernières séquelles. Donc voilà, c'est pour vous donner à peu près une idée de ce qu'il adviendrait de ce film aujourd'hui. Donc ça sera la dernière collaboration de ce trio pour Empire, en tout cas. Brian Yuzna, lui, prendra son envol et produira son propre contenu indépendamment d'Empire Pictures, toujours avec Gordon. Gordon, lui, restera chez Empire, notamment pour ce qui arrivera par la suite, La Pluie et le Pendule, et pour une série de films derrière, qui seront Les Robots Jocks, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut noter de plus ? Ça sera un succès en vidéo. Voilà, donc si votre humble serviteur derrière le micro l'a connu en vidéo, c'est parce que déjà, ça se louait plutôt facilement. Et je pense que beaucoup de mes auditeurs, qui sont de la même génération que moi, l'ont découvert en vidéo. Voilà, je suis preneur aussi, si pour certains et certaines, vous l'avez découvert en festival. C'est quand même quelque chose qui a fait la joyeuseté du festival d'Arvoriaz à l'époque, hein, en 86. Hein. Donc voilà, et je me demande s'il n'avait pas eu un prix. Non, alors j'ai le Blu-ray sous mes yeux et c'est marqué sur l'affiche. C'est juste une sélection officielle au festival d'Arvoriaz en 87, et n'est mention d'aucun prix à ce niveau-là. En tout cas, c'est une petite pépite visuelle, donc qui vous fera plaisir, un bon film du samedi soir, et à regarder entre amis, et même en couple, hein, pour les couples qui sont amateurs de cinéma d'horreur, ça vous fera plaisir, ça fera plaisir à tout le monde. C'est sexy, c'est rigolo, c'est con aussi. Mais c'est pas con débile, c'est con comme il faut pour ce genre de film. Donc c'était un plaisir de le chroniquer ici même à 7ème dimension. Je vais vous faire un petit point sur l'édition Sidonis Calista. Bon, on est quand même pas au niveau, on est loin du niveau des éditeurs que j'ai l'habitude de chroniquer, hein, c'est-à-dire Le Chat qui Fume, The Extasio Film, ESC Édition, on n'est pas à ce niveau-là. À noter, qu'est-ce que je pourrais dire ? Bon, le master est propre, ça c'est le master américain, donc qui est exploité en France, le master est très propre. Donc, par contre, alors ça c'est peut-être une petite remarque que je peux faire à Sidonis Calista. Alors déjà, on peut les remercier d'avoir édité le film, parce que c'est déjà le point de départ, et au final, c'est ce qui est le plus important. Faites attention les gars, moi j'ai pu noter, toutes vos animations de logo et ainsi de suite restent en SD alors que le disque est en Blu-ray. Voilà, ça se note au niveau de la pixelisation, des animations, notamment de votre logo, ça reste du SD dans du Blu-ray, ça se voit. Donc ça c'est un petit peu dommage. Le menu animé est efficace, voilà, il est pas dégueulasse. Il y a une volonté de faire un petit bonus. Et on y retrouve notre Vin Diesel des éditions physiques françaises, c'est-à-dire l'ancien rédacteur en chef et stacanoviste de l'écriture de suppléments pour les éditeurs français, c'est-à-dire Marc Toulek. Et là, nouveauté, c'est un texte de Marc Toulek et qui est prononcé à l'écran par Linda Tahir, donc plutôt mignonne, la Linda Tahir. Alors ça change un petit peu des textes déroulants ou des interviews, donc là on a qui fait office d'actrice, voilà, qui va mettre en image et en mots le texte écrit par Marc Toulek. À noter qu'elle est enseignante et productrice notamment de contenu pour ce genre d'édition, et qu'elle s'occupe ou s'occupait, parce que c'est pas quelque chose que je regarde, hein, j'ai pas TCM, sur TCM du mag Ciné Vintage. Alors après, Ça un peu ses limites, hein. C'est quand même 20 minutes de quelqu'un en multicam, hein. Il y a un plan large et un plan serré, avec une espèce d'éclairage un peu horrifique, qui raconte plutôt bien, mais on voit qu'elle récite, hein, ses côtés prompteurs, un texte de Martoulec. Ça a un peu ses limites, et surtout que ce bonus de 20 minutes s'appelle Beyond Reanimator, et que on y parle un peu de From Beyond, mais surtout de Reanimator. Bon, quand on s'est cogné les éditions gavées jusqu'à l'os de The Ecstasy of Films sur les deux Reanimators, bon, c'est déjà tout. Donc, bon, je pense qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Après, je comprends aussi un petit peu les limites de l'exercice. C'est-à-dire que Sidonis Kalista, ça n'a pas les mêmes moyens, voilà, ça a pas les mêmes moyens que les autres. Bon, il faut voir Sidonis Kalista comme plutôt un éditeur un peu discounter en France. Donc on n'est pas sur le même niveau. Ils ont tenté de faire un truc. Voilà, c'est donc cette édition n'est pas à récupérer pour ses bonus et surtout à récupérer pour le fait que le film n'existait pas en haute définition de par chez nous. Et rien que pour ça, ben un grand merci à Sidonis Kalista d'avoir fait le taf. C'est un Blu-ray qui se récupère à pas cher. Voilà, moi je l'avais récupéré, alors bien après la guerre, hein, parce que je vous ai dit que c'est quelque chose qui est arrivé en 2017. J'ai récupéré ça l'année dernière en promo sur Amazon. À peu près. Donc voilà, ça fait le job, c'est présent et c'est toujours un plaisir de redécouvrir ce film que j'avais en arrière-plan d'un film d'1h40 sur une VHS. Voilà, c'est comme ça. Après, pour moi, From Beyond appartiendra toujours à mon édition télécassette enregistrée sur les Jeudis de l'Angoisse. Ça lui donne du charme, un peu comme je l'avais spécifié pour l'édition de Maniaque du Chat qui fume. Des fois, ces films-là, de les avoir en propre, ça leur enlève un certain charme. Pour moi, c'est des films un peu crades, et les avoir crades leur rajoute un côté un petit peu non officiel, pas autorisé, voilà, de posséder ce genre de choses qu'on est le seul à l'avoir. Voilà, c'était on va dire, ma lettre d'amour à ce cinéma-là qui n'existe plus, voilà, qui était dans les années 80. Donc c'était, eh ben, je vais quand même le dire, parce que je le dis de moins en moins, c'est quand même la 36e vérif. Et comme vous pouvez le voir, notre créneau à nous, à 7ème dimension notamment, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute.
Septième dimension en mode podcast.